des chiffres.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est à 21h ce soir. C'est le duel qu'on a quand même envie de voir. La tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, face à la tête de liste de la majorité, Madame Valérie Hillier.
Benjamin Duhamel sera l'arbitre. Bonjour Benjamin.
Bonjour Olivier, bonjour.
Ce soir sur BFM TV à partir de 21h, c'est le coup d'envoi vraiment des européennes.
Oui, exactement, parce que jusque-là, on a une campagne qui est en partie, je ne vais pas phagocyter, mais comment dire, qui s'éloigne un petit peu des problématiques européennes. On a beaucoup parlé de la question du Proche-Orient, on a des listes qui n'étaient pas tout à fait composées. Là, vraiment, on est à un peu plus d'un mois du scrutin et on est surtout dans un moment politique qui est très intéressant pour les deux participants. On a d'un côté Jordan Bardella, dont on dit qu'il fait une drôle de campagne, qui prend pas beaucoup de risques. J'ai lu cette citation dans Le Parisien. On dit que c'est la stratégie du lutteur huilé, voilà, qu'on n'arrive pas à attraper parce que tout glisse sur lui.
Alors, en même temps, il est très haut dans les intentions de vote.
Il est effectivement très haut dans les sondages. Donc, ce soir, ce sera l'occasion pour lui, voilà, de voir ce qu'il a dans le ventre sur tous les sujets qu'on va aborder: Ukraine, immigration, écologie, agriculture. Et puis pour Valérie Hillier, là c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire qu'elle est dans un moment où elle est pas très loin de se faire dépasser par Raphaël Glucksmann, le troisième homme. Il faut qu'elle démontre qu'elle a la capacité d'être à la hauteur dans un face-à-face. C'est la première fois qu'ils seront l'un contre l'autre
sur un
plateau télé. Ils se connaissent pas. Ils sont tous les deux parlementaires européens et donc ça va être intéressant de voir évidemment non seulement ce qu'ils ont à se dire sur tous les grands sujets européens, mais cette opposition de style, parce qu'on a d'un côté un Jordan Bardella qui est hyper habitué à tous les débats politiques. Il avait débattu face à Gérald Darmanin, plusieurs fois face à Gabriel Attal. Valérie Hillier est plus novice en la matière. Donc voilà, de ce point de vue-là, moi je suis très curieux.
Mais est-ce que finalement Bardella n'a pas plus à perdre que Valérie Hillier ce soir? Parce que Valérie Hillier est, on va dire, un peu arrive en challenger dans ce match.
Ah, je suis totalement d'accord. Je pense que, et d'ailleurs c'est un argument qui revient pas mal quand on discute avec des gens de la majorité, qui disent au fond, il suffit d'un petit moment où Valérie Hillier peut mettre en difficulté Jordan Bardella pour que, à partir du moment où tout le monde s'attend à ce qu'il soit meilleur, qu'on se dise, ah bah en fait, elle est peut-être pas si mauvaise en débat. Maintenant, attention, la réalité, c'est que Jordan Bardella est parmi sans doute les plus roués en débat, a un sens de la répartie qu'on connaît.
Il marche sur l'eau, là, en ce moment.
Il marche un peu sur l'eau et politique jusqu'au bout des ongles. Donc, pas facile non plus pour elle d'être capable de se confronter à cette bête politique.
Frédéric Farah.
Alors, comment on arbitre ça?
Eh ben, c'est pas évident. On arbitre déjà. Bon, franchement, c'est pas moi qui fais la qualité du débat. Il faut qu'il y ait des échanges de qualité. Il faut pas qu'il s'invective. Là aussi, ça, c'est une difficulté pour Jordan Bardella. Il faut pas, lui, face à une femme qui a moins d'expérience, qu'il peut-être soit trop dur. Je pense qu'on n'aborde pas, quand on est Jordan Bardella, le débat de la même manière que quand on est face à Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, où au fond, il y a l'impression qu'on est à peu près au même niveau. Moi, ma feuille de route, si j'ose dire, c'est de faire en sorte que ce soit équilibré, de faire en sorte, pour le coup, qu'on puisse vraiment parler d'Europe. Mais pas l'Europe, je pense aux auditeurs et téléspectateurs, pas l'Europe ennuyeuse. L'Europe qui a des conséquences sur la vie quotidienne.
Ah oui, bah
le pouvoir d'achat, la question du nucléaire, la question de l'Ukraine, la question de l'immigration, le pacte migratoire.
Oui, mais
ce qui est intéressant, c'est que tous les opposent là-dessus.
Mais précisément, c'est ça qui est un peu difficile pour l'un et pour l'autre. Parce que, effectivement, ça doit rester un débat européen. Madame Hillier est très connaisseuse de ces dossiers, mais justement, de ces dossiers ennuyeux, ce petit côté techno. Et monsieur Bardella, on va pas dire que l'Europe, il se lève tous les matins en pensant à l'Europe.
Non.
Voilà, je pense qu'il se rase plutôt en pensant à autre chose qu'à l'Europe.
Ah bon?
Et donc,
les
dossiers européens, il les voit sous un angle national. Donc, effectivement, si Bardella ce soir interprète les sujets européens que madame Hillier va mettre sur le plateau d'un point de vue national, c'est quand même lui qui risque de remporter la mise.
Après, effectivement, Jordan Bardella, de toute façon, c'est sa stratégie depuis le début de la campagne,
a
tout intérêt à nationaliser le scrutin. C'est-à-dire que quand on parle d'immigration, plutôt que d'aller sur les subtilités du pacte migratoire, de plutôt dire, ah mais regardez, on a vu ce qui s'est passé à tel endroit avec quelqu'un qui était en situation irrégulière. Bon. Après, dans chaque problématique européenne, il y a un peu de national et il y a un peu de sujet européen à nous, pour le coup, de faire en sorte que la discussion se passe bien. Et j'ajoute qu'il y aura évidemment des questions d'actualité au début qui permettront de traiter, là, pour le coup, les sujets, ce qui se passe à Sciences Po cet après-midi, la question de la violence des mineurs. Et puis, à la fin, il y aura cette petite surprise, je sais pas si le mot est bon, mais chaque candidat aura une carte blanche. Et pour le coup, moi, je ne sais pas quelle est la carte blanche qui a été choisie par Valérie et Jordan Bardella. Eux-mêmes ne savent pas quelle est la carte blanche choisie par l'adversaire. Donc là, ce sera aussi une façon pour eux de mettre en avant le sujet de leur choix.
Bruno Français.
J'ai lu que, en fait, la liste Renaissance n'était pas finie de monter. Mm-hmm. Que normalement, demain, ils étaient en séminaire pour définir les contours.
Pas la liste.
Hein. Ils parlent de mettre Bayrou et Édouard Philippe en queue de liste. Ouais. Comme nous, on fait aussi chez les syndicalistes. On met toujours les têtes de gondole qui ne veulent pas être élus, enfin. Mais pour faire voir qui c'est qui est dans la liste. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant parce que je sais que la liste EFI non plus n'est pas sortie. Bardella, je crois que la scène est sortie il n'y a pas quelques jours.
Bardella est sortie hier.
J'ai vu Europe Écologie Les Verts.
Ça s'est fait, c'est sorti.
Et Glucksmann.
Et l'air aussi. Et l'air, c'est sorti.
Et chez Bardella, parce qu'il avait dit oui, il y a Malika Sorel qui est venue. Il y a
numéro 2, Mathieu Vallée aussi, l'ancien policier.
Et tout. Alors, j'ai pas vu.
Numéro 2, Malika Sorel. Vallée est assez bien placé.
Oui, 6 ou 7ème, je crois.
Ce qui était étonnant sur la liste d'hier, c'est qu'il y avait tout un débat sur le fait de savoir s'il fallait que Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy,
et finalement, il y est.
Allait être ou non sur la liste, allait être reconduit compte tenu de ses positions
pour la Russie.
Il a été reconduit, il est 9e sur la liste, ça veut dire que Jordan Bardella est prêt à prendre le risque. Précisément, ça fera aussi l'objet, ça.
Justement, ça,
d'une
voilà.
Des thématiques du débat. Il ne faut pas être grand clair pour imaginer que Valérie Ayer va aller taper très fort sur le thème, les ambiguïtés avec Poutine, les votes au Parlement européen. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, Jordan Bardella lui a donné une cartouche en laissant Thierry Mariani sur la liste.
Jordan Bardella, sa stratégie, il a sans doute raison, parce que ce sont des élections intermédiaires. C'est de transformer ces élections en référendum pour ou contre Macron. Il pense qu'il voit, les sondages comme nous, Macron est très impopulaire.
C'est ce qu'a dit Le Pen hier.
En fin de règne, même s'il reste encore 2 ans et demi. Donc c'est compliqué, il n'y a pas de dynamique Macron. Et Valérie, elle n'y peut rien, elle subit ça aussi.
Elle
donc,
est plombée par Macron.
Bardella, son intérêt, c'est de tirer cette campagne vers ce qui se passe en France et vers Macron.
Mais en fait, c'est pour ça que, de façon contre-intuitive, personne ce soir ne se dit qu'ils vont aller convaincre l'électeur adverse d'aller chez eux. C'est un sujet de mobilisation interne. Jordan Bardella, il essaye de se dire, il mobilise, il parle à son camp en disant, au fond, ne vous abstenez pas, ne vous dispersez
pas.
Mais
c'est pas encore gagné.
Mais c'est pas encore gagné. Et Valérie Ayer, ils ont un sujet très simple à Renaissance. Toute une partie de leur socle électoral, de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, ne veulent pas aller voter et ne sont pas prêts à voter pour Valérie Ayer. Si toute une partie de ceux qui, en l'état, se disent, oh là là, on n'y va pas, sont remobilisés, bah déjà ça lui permettra de progresser. Donc en fait, de ce point de vue-là,
on est à quoi dans les sondages, il y a 15 points qui est quasiment
le double. Aujourd'hui, si de mémoire, il y en a plusieurs, mais Bardella monte jusqu'à 32 et Valérie Ayer 16-17. Donc c'est une situation totalement inédite. Le vrai sujet pour Valérie Ayer, c'est de voir si elle est susceptible de se faire rattraper par Raphaël.
Mais précisément aussi, il faut aussi que le Bardella et le RN fassent attention. Et je pense que Marine Le Pen, dans le discours qu'elle a eu hier, elle en était bien consciente. Faut pas recommencer comme au régional.
Absolument.
C'est-à-dire, on y est, on va même avoir des régions, etc., à se laisser galvaniser par les. Et est-ce que justement, vous sentez, parce que Marine Le Pen, elle a énormément de bouteilles et elle a toujours la tête froide, mais est-ce que vous sentez que Bardella a la tête assez froide pour conduire à la fois ce débat et cette campagne? Parce qu'on a quand même, quand on voit que la dernière fois, il convoque une conférence de presse et qu'au dernier moment, il répond pas aux questions des journalistes, c'est quand même un petit peu étrange.
Je pense que Jordan Bardella a été habitué à être au fond dans une sorte de trajectoire ascendante. On disait qu'il était très talentueux, on se posait même la question de savoir si éventuellement, si Marine Le Pen était empêchée en 2027 sur le plan judiciaire, il pourrait pas la remplacer. Donc pour lui, l'enjeu, c'est de gérer des séquences où de fait parfois il fait des erreurs, ou parfois il a un coup de fatigue, c'est ce qui avait été dit pour effectivement justifier le fait qu'il ne répondait pas aux questions des journalistes. Parfois dans des interviews, on a tous entendu des moments où il était un peu plus hésitant sur les ventes au Parlement européen, sur le fameux Jean-Marie Le Pen.
Et face à Glucksmann sur France Inter, il a blogué un peu.
Face à Raphaël Glucksmann. Donc voilà, c'est aussi de pas tomber dans une sorte de péché d'hubris ou d'excès de confiance pour Jordan Bardella.
Et toi qui suis ça depuis, vu que c'est ton taf, mais en plus parce que t'es à fond dedans, mais tu crois pas que la campagne a commencé juste maintenant? Parce que moi je vois quand même, aujourd'hui, moi quand j'entends parler n'importe quel parti, tu sens qu'ils parlent pas de ça. Ils sont là-dessus en disant, c'est ça, mais ils parlent pas de ça. Ils parlent de ce qui se passe chez nous. Ils essaient de raccrocher les wagons avec d'autres trucs. D'accord. Mais par contre, j'ai l'impression que la campagne va commencer maintenant. Parce que, après, moi, je suis, c'est pas moi qui vais voter Renaissance, déjà. Ça, c'est sûr. Je vous l'avoue. Bon, excusez-moi, je veux pas dire pour qui.
Et c'est bizarre, on te comprend.
Oui. Mais par contre, Valérie, elle me paraît quand même. Moi, j'ai vu des interviews d'elle et je suis la politique à fond. J'ai vu des interviews où je la sens hyper quand même technique et hyper investie dans, elle sait de quoi elle parle, en fait. Moi, contrairement à Bardella, qui, en plus, tout le monde sait qu'il va à l'Europe que quand il est obligé d'y aller. Elle est une vraie députée, mais comme Manon Bry. Manon Bry, on n'arrête pas de la déchiqueter en ce moment, mais Manon Bry, c'est une vraie députée européenne.
Et qui la déchiqueté? C'est Mélenchon lui-même qui la déchiqueté.
Oui, j'ai pas dire.
C'est Rima Hassan qui la déchiqueté.
Reparlons de ce sujet.
Et vu que Manon Bry, on la met un peu plus en avant, qu'elle parle réellement des dossiers européens, parce qu'elle est vraiment pointue.
Mais est-ce que la difficulté, c'est pas très difficile d'européaniser les débats?
Si, parce que à chaque fois, on a été habitué par ailleurs en France, souvent les élections européennes, c'était l'élection où on recasait ceux qui avaient perdu aux élections nationales.
Ah ben,
c'était systématiquement vu comme des élections de mi-mandat où le pouvoir en place était sanctionné. Bon, après, on est quand même dans un moment et dans une ambiance qui n'est pas la même qu'en 2019. La guerre en Ukraine fait que, nécessairement, l'enjeu européen est quand même sans doute plus important encore qu'il n'était, il y a 5 ans. Et je réponds à ta question, Bruno, sur le fait que la campagne n'a pas commencé. Je suis totalement d'accord. Tous les retours qu'on a, c'est que quand ils sont sur les marchés, même nous, dans les discussions qu'on a, les Européennes, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est pour ça.
Les gens ne savent même pas quand.
Exactement.
Quel jour.
Là, on rentre, dans le dur vraiment. Je ne dis pas ça pour faire la pub du débat, mais je pense contribuer à faire monter la pression. Et en sachant que de toute façon, ça se joue toujours dans les tout derniers jours.
La difficulté, c'est que on a l'impression quand même que Valérie Ayer, même si c'est une députée européenne compétente, a été un choix par défaut.
Bien sûr.
Alors que Bardella, non.
Évidemment.
C'est la différence entre les deux.
Rappelons tous ceux qui ont dit non avant que ce soit Valérie Ayer. Bruno Le Maire approché, non merci. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, non merci. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, non merci. Donc c'est évidemment un choix par défaut avec ce pari qui était fait, qui était de dire. Au fond, avec Nathalie Loiseau, on a fait 22-23, donc avec Valérie Ayer, c'est pas un problème. Ce qui là, je pense, c'était une erreur stratégique, parce que le contexte n'est absolument pas le même. Et donc là, si effectivement ce soir, elle est un peu faible en débat, eh ben ils pourront se mordre les doigts d'avoir mis quelqu'un qui n'assure pas forcément face à Jordan Bardella. Mais rien n'est fait.
Ce soir, 21h, c'est Benjamin Duhamel qui va arbitrer, orchestrer le duel entre Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Valérie Ayer pour la majorité actuelle. C'est le premier grand débat de ces élections européennes. Intérêt ou pas à propos de ces élections, à votre avis, qui est le favori? Est-ce qu'on prête à Bardella un score bien au-delà des 30%? Absolument. Ben, venez en parler avec nous au 32-16, dans les GG, dans les grandes gueules. Et si Bardella l'emporte, est-ce que ce sera la victoire du Rassemblement National, la victoire de Marine Le Pen, ou la victoire de Bardella qui pourrait l'emmener peut-être vers d'autres combats? Eh ben, on va en parler, bien sûr, encore avec vous au 32-16 et avec Benjamin Duhamel.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules avec un collègue de bureau aujourd'hui dans les grandes gueules. C'est Benjamin Duhamel qui est avec nous parce que Benjamin, ce soir, on va orchestrer sur BFM TV le duel entre Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes, et Valérie Ayer, tête de liste de la majorité. On verra comment ça va se passer. Il y en a un qui a beaucoup à perdre et l'autre plus à gagner. Ouais. C'est Valérie Ayer qui en ce moment est challengée par Raphaël Glucksmann, alors que Jordan Bardella caracole en tête des intentions de vote. Du coup, c'est vrai que si le 9 juin prochain, rappelons qu'il n'y a qu'un tour aux élections européennes, si le 9 juin prochain il est très largement au-dessus, comme lui prêtent les intentions de sondage, des 30%, commencera à se poser la question de peut-être la présidentielle va commencer juste après les européennes. Benjamin Duhamel, en particulier au Rassemblement National, de se dire Marine ou Jordan, non?
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup vont avoir ses ambitions pour lui. Et notamment, on l'a vu au moment de, vous vous souvenez, ce qu'on appelait les rencontres de Saint-Denis, quand le président avait rencontré tous les chefs de l'opposition. On avait entendu beaucoup de gens dans la majorité dire, dis donc, vachement solide, Jordan Bardella, il a vachement travaillé. Ce qui avait été interprété au Rassemblement National comme une façon d'essayer de mettre un coup entre les deux. Après, moi, pour avoir suivi le RN sur le terrain pendant quelques années, moi, je crois pas beaucoup à la possibilité que Jordan Bardella s'émancipe, parce que je pense que, d'abord, même si Jordan Bardella est patron du parti, l'appareil est tenu par Marine Le Pen. Exactement. Déjà, ça c'est quelque chose là. Et je pense aussi que Jordan Bardella a parfaitement en tête toutes les velléités depuis 20 ans à l'extrême droite d'émancipation des numéros 2, que ce soit Bruno Maigret, Florent Philippot. Et il sait très bien qu'à chaque fois, il se plante. Franchement, Jordan Bardella, il a 28 ans. Marine Le Pen, si elle est candidate en 2027, ce sera vraisemblablement sa dernière candidature. Si elle gagne, évidemment. Donc moi, je vois pas beaucoup Jordan Bardella essayer de lui griller la politesse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on scrutera...
Elle avait dit, si jamais j'arrive à l'Élysée, sera Matignon
exactement.
Pour Bardella.
Ce qui est sûr et ce qui sera intéressant de regarder, notamment sur les scores, c'est de voir à quel point Jordan Bardella a cette capacité à parler à des électorats auxquels Marine Le Pen ne parle pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit... Ce qui est intéressant,
l'électorat de droite.
Exactement, électorat de droite, les cadres, les retraités qui jusque-là avaient peur de Marine Le Pen, se disent au fond avec Marine Le Pen ça va être la banqueroute, nos économies elles vont fondre, ça va être l'instabilité. Ils ont moins peur de Jordan Bardella. Et c'est vrai qu'en ça ils font un binôme complémentaire assez redoutable.
Mais c'est ça, moi, ce qui m'impressionne en regardant notamment les sondages, il y a des déplacements. Par exemple, pendant longtemps, les retraités ne votaient pas RN. Absolument. Ils ont voté Macron. Ils ont d'ailleurs sans doute permis à Emmanuel Macron de rester président. Mais là, ils sont en train d'aller vers Bardella. Donc en fait, Bardella-Le Pen, le tandem, remplace à droite.
Absolument. C'est... Non, mais il y a ce débat.
La droite va pencher de plus en plus vers
la stratégie.
La droite va disparaître.
La stratégie de Marine Le Pen, elle date pas d'aujourd'hui. C'est pas depuis qu'elle a rencontré Bardella qu'elle s'est dit, tiens, si je mettais en place cette stratégie, c'est une stratégie ancienne, qui n'est d'ailleurs pas une stratégie, qui est une conviction qu'elle a, qu'il fallait nettoyer les écuries d'Augias, qu'il fallait débarrasser le FN de ses vieux relents antisémites, racistes, etc. Ce qu'elle a fait. On peut pas faire mieux que de virer son propre père et voire de quasiment le jeter aux oubliettes du parti. Et sa stratégie avec Bardella, c'est de préparer en douceur, vraiment en douceur, dans un glissement lent mais profond, la métamorphose du RN en étant le parti de droite, de la droite populaire et nationale, que, je suis désolée, qu'une partie de l'opinion française attend. Et cette partie de l'opinion française, elle l'attend parce qu'elle n'a pas été compensée par les autres partis. Donc le succès du Rassemblement National et de la pensée stratégique de Le Pen, que beaucoup de gens pendant longtemps, y compris des journalistes politiques, ont méprisé, alors que c'est une femme qui a un grand sens politique, qui voit très clair, alors peut-être que, bien sûr, mais comme Mélenchon. Mélenchon, à sa façon, il a un sens politique. Il se plante complètement dans sa vision, parce qu'il a rien compris à ce que veut l'opinion française. Mais Mélenchon aussi, là, c'est quelqu'un qui a une vision. Les sbires derrière n'en ont pas. Alors qu'elle tient, exactement comme a expliqué Benjamin, elle tient le fait qu'elle ait choisi un petit jeune. C'est pas pour rien non plus, parce que sa jeunesse fait qu'elle le tient.
Aussi, oui.
Oui, mais elle le tient par sa jeunesse. Il aurait 40 ans, il aurait plus d'expérience. Mais on va pas se mentir. Il est même pas sorti de la fac avec un diplôme,
Bardella. Mais il sera pas là ce soir, c'est Gabriel Attal. Mais comme Gabriel Attal, il va peser. Enfin, c'est un peu long parce que Gabriel Attal, il a été nommé aussi à Matignon pour faire gagner les européennes à la majorité. Pour l'instant, quand on regarde les intentions de vote, il n'y a pas d'effet Attal.
Pour la liste, vous souvenez, l'arme anti-Bardella. Alors, ça m'énerve quand tu dis ça, parce que moi, quand je l'ai interviewé il y a 15 jours et que je lui dis alors, l'arme anti-Bardella est un couteau sans lame, il n'a trouvé comme réponse que de me dire, mais qui dit l'arme anti-Bardella? Qui? Bah, tous les conseillers du président de la République, quand on les interrogeait au mois de janvier, quand il était nommé. Et c'est intéressant de voir le changement de stratégie, parce que pendant, depuis janvier, c'était de dire, le débat avec Bardella, non, moi je fais pas, c'est pas de mon niveau, je suis chef de la majorité, moi je veux bien débattre avec Marine Le Pen, je suis pas candidat aux européennes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? Gabriel Attal a fait savoir qu'il était OK pour débattre avec Jordan Bardella.
BFM TV est OK pour.
On est complètement OK.
Parce que pour l'instant,
on est complètement
gay.
Parce qu'il sait qu'il n'y aurait rien de pire pour lui si le 9 juin au soir, Valérie Ayer fait une contre-performance, qu'on dise Gabriel Attal s'est planqué. Parce que si il donne l'impression vis-à-vis du président, vis-à-vis de la majorité, qu'il a essayé de se sauver lui, ça aura un effet désastreux, même si il faut aussi dire, s'il débat avec Jordan Bardella et qu'ensuite ça n'a pas d'effet, l'effet sera pas terrible.
Mais justement,
plus.
Ça a une question là-dessus, sur la question de l'identité européiste de la Macronie. Puisque vous avez rappelé que toutes les têtes de liste qu'on aurait pu avoir ont dit non, alors qu'on a un président de la République qui parle presque plus de l'Europe que de la France, comment on comprend que le parti de la majorité, qui devrait être le parti européiste par excellence, est contraint, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour Madame Ayer, enfin, ils auraient pu avoir une figure bien plus exaltante de l'Union européenne. Ils n'y arrivent même pas eux-mêmes. Comment ça se fait? Comment vous le comprenez?
Et ça se fait que les principaux leaders de la majorité préfèrent rester ministres, préfèrent, étaient légèrement en retrait, Julien Normandie, Jean-Yves Le Drian n'ont pas forcément envie d'aller prendre le risque de faire 16 ou 17%. Mais c'est vrai que le paradoxe est absolu. L'ADN le plus pro-européen, la colonne vertébrale du macronisme, c'est l'Europe. Et à la fin, c'est quelqu'un comme Valérie Ayer qui, effectivement, n'est pas une personnalité de premier plan peut l'être Jean-Yves Le Drian.
Du coup, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron, mais sur ses convictions européennes, il y a une constance. C'est-à-dire qu'après, on est d'accord ou pas.
Beaucoup plus que Jordan Bardella.
Et néanmoins, la liste qu'il soutient est à 15, 16 ou 17% dans les sondages. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rejet de l'Europe actuelle? Et la pauvre Valérie Ayer va en subir les conséquences. On voit bien que les Français, il y a eu la crise agricole, il y a le problème de l'immigration, les Français ont l'impression que des choses ne sont pas maîtrisées.
Il y a le référendum de 2005.
Il y a aussi l'économie, on en parlait en off avec Frédéric Farah, aujourd'hui la croissance américaine cartonne, la croissance chinoise et la croissance européenne est plutôt faible et on est dans un marché qui... Voilà. Donc ça aussi, ça pèse aussi dans le débat. J'imagine que vous allez en parler ce soir.
Non, ça pèse. Je crois qu'il y a, le fait que le président est impopulaire, ne sera plus à l'Élysée dans un peu plus de 3 ans et donc il y a un effet sanction. Je pense qu'il y a effectivement la difficulté à porter un certain nombre de solutions avec toujours cette idée que l'Union européenne n'est pas assez efficace, même s'il faut quand même dire qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Le Covid, l'emprunt, l'Europe de la défense qui n'est pas...
Le soutien à l'Ukraine.
On
a oublié ça, mais... personne n'avait imaginé que les Européens se mettraient d'accord pour soutenir l'Ukraine.
Que l'Allemagne, voilà, dans les jours qui ont suivi l'agression russe en Ukraine, décide d'investir davantage dans son armée, d'envoyer un certain nombre de...
D'abandonner le gaz russe.
Donc, il s'est quand même passé des choses. Et puis, il y a aussi, ce qui est intéressant avec la progression de Raphaël Glucksmann, une sorte de lente décomposition de ce qui avait fait le succès d'Emmanuel Macron. Ah. Parce que en se déportant à droite, Rachida Dati, la réforme de l'assurance chômage, il y a un certain nombre d'électeurs macronistes de gauche qui se disent « Bon, on a envie de se faire plaisir. »
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça. Et Clément Beaune, j'ai vu, a eu cette expression, il dit « Attention au vote plaisir. » Je pense que c'est très important. Il y a des gens qui, depuis 2017, votent pour Macron à chaque fois. Et là, ils se disent de toute façon... Macron ne pourra pas se représenter. L'élection européenne, ça ne veut pas dire que Raphaël Glucksmann va arriver au pouvoir. Donc, on se fait plaisir.
Et c'est pas Mélenchon.
Donc, il se passe sorte d'effet de vase communicant entre
l'électorat macroniste et Raphaël Glucksmann. Ça en dit long aussi sur l'ignorance politique des Français, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'ensemble des directives européennes qui sont transposées dans le droit national et qui nous plombent aussi dans bien des domaines. Donc, attention à prendre ça pour une élection plaisir, comme ils disent.
Non, mais quand les gens ont découvert que, tiens, les normes européennes s'imposaient aux normes nationales. Alors, j'ai l'impression, où les gens habitaient. Cour de cassation 1975, arrêt Jacques Vabre, qui indique que pour le droit privé, c'est l'Europe. Décision Nicolo, Conseil d'État 89, le rappelle. Donc j'ai envie de dire, mais que se passe-t-il? Cette affaire est là.
Il se passe 2005 où on a dit stop, mais personne n'a voulu nous écouter.
Les Français ont voté non au référendum de 2005.
Oui, je sais. Et ça, c'était très bien. Et c'était très bien.
Voilà. T'as dit non à l'époque? Oui. Moi, j'ai dit non.
Et moi aussi.
Ah bon, ça va. Voilà.
Oh là là, quelle unanimité.
Moi, je votais pas.
Mais
c'était déjà un problème.
Eh bien oui, mais ça, c'est ça la vraie rupture. La vraie rupture avec l'Europe, elle est là. Parce qu'on pouvait avoir envie.
Moi, Maastricht aussi.
Moi aussi.
Ben voilà.
Vous avez dit non à chaque fois, quoi.
On dit non à tout, nous.
Mais l'Europe.
Venez à Sudrail.
L'Europe telle qu'elle est montrée aujourd'hui. La bataille de la communication aujourd'hui sur l'Europe, ceux qui l'ont gagnée, c'est les agriculteurs et c'est le Rassemblement National. À travers des faits qui sont. Regardez, l'Europe nous empêche de travailler, les agriculteurs, à tort ou à raison, hein. Le Rassemblement National en disant regardez la submersion migratoire, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie. Après, on a réussi à vendre, à tort ou à raison, regardez, quand on prend des décisions d'expulsion ou des décisions nationales, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'agir. Donc en fait, aujourd'hui, on a vendu l'Europe comme une entité qui empêche de vivre. Et donc la bataille de la com là-dessus, c'est Bardella qui l'a gagné. Ce qu'il faudra que réussisse à faire Madame Hayer, c'est de dire, regardez ce que l'Europe aussi permet de faire. Regardez, qu'on ne peut être très fort qu'avec l'Europe. Le combat, il va être là ce soir.
Là-dessus, deux exemples. Sur la
toujours plus facile de dire non que de dire oui, d'accepter.
Sur la bataille de communication, c'est vrai. Après, deux exemples précis. La PAC. Jordan Bardella en dit pique-pan dans la politique agricole commune. Il a voté la PAC. Il n'a pas voté le budget, mais il a voté le principe. Deuxième exemple, sur l'immigration, submersion migratoire. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, elle fait campagne en disant blocus naval, épouvantable, l'Europe nous laisse seuls. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? 450 000 travailleurs étrangers qu'elle veut régulariser. Ouais. Et elle soutient le pacte migratoire, qui est cette décision qui a été prise pour effectivement réguler l'immigration à l'échelle européenne.
Qui n'a pas été votée par Glucksmann d'ailleurs.
Qui n'a pas été votée
par les socialistes européens.
Absolument, c'est-à-dire que l'extrême droite dit c'est trop laxiste et Raphaël Glucksmann dit c'est inhumain. Donc sur la communication, c'est vrai, mais il y a aussi toute une série de décisions qui montrent que parfois, il y a un décalage entre les slogans quand on est dans l'opposition et ce qu'on fait quand on arrive au
pouvoir. Oui, mais le RN répond toujours.
C'est classique.
Mais le RN répond toujours qu'ils sont pas dans le groupe de Meloni, ils sont dans le groupe de Salvini.
Oui, Salvini qui appartient au gouvernement de.
De Meloni, mais Salvini qui prône une autre politique sur les questions migratoires.
Et avec des candidats terrifiants dans la Ligue du Nord. Vanacci, par exemple.
Qui est-ce?
Alors, ce candidat, il est terrifiant.
Un ancien général.
C'est un ancien général, qui est candidat pour les européennes. Alors, lui, il tient des discours de dingue.
Homophobe, raciste,
ouvertement. Il explique que aussi pour les élèves en situation de handicap, il faut les mettre à part. Et il vend des bouquins dans tous les sens. Et il dit, on le voit avec Salvini, qui l'encourage. Enfin, ce type, quand je le lis dans la presse italienne, etc., c'est effrayant, en fait.
Tu penses à personne en France? Il y en a peut-être qui lui ressemble un peu en France.
Ah bon? Non, je vois pas du tout. j'ai pas d'idée.
Dans tous les cas, le débat est ce soir. Il est sur BFM TV.
21h.
On a regardé les grands enjeux avec l'ami Benjamin Duhamel. C'est en direct, ce sera à suivre bien sûr. Jordan Bardella.
Il y aura de la castagne.
Face mais
évidemment.
Et ben Valérie Ayé. Fais pas la connerie avec les gants de boxe.
Ça a pas très bien réussi à la personne qui avait fait la dernière fois.
Donc,
je vais m'abstenir là-dessus.